ces institutions naturelles qui, Saint Jean Paul II, a résumé dans la notion de civilisation de la vie. Civilisation de la vie. La vie, la famille, l'éducation. S'il s'agit des fondements surnaturels de la civilisation chrétienne, ils sont bien sûr toujours actuels, parce que Tocqueville, qui n'était pas croyant, mais Tocqueville a dit que la société démocratique a plus grand besoin de l'autorité de l'Église que la société précédente. C'était même... Je ne veux pas scandaliser personne, mais même Voltaire et même le maître de lumière étaient persuadés sur la nécessité de l'Église pour former des maires. Donc, ce rôle direct de l'Église est toujours actuel. Et bien sûr, c'est le rôle le plus essentiel, parce que le centre de la vie sociale, c'est la personne avec sa vocation surnaturelle et éternelle. Et la plus grande chose dans la chrétienté se joue non pas dans le Parlement, mais dans le confessionnel, dans les âmes, dans les rencontres eucharistiques des personnes avec son Sauveur. Mais je vais revenir, mais Saint Pie X nous a montré qu'il y a aussi des fondements naturels de la civilisation chrétienne. Et je pense que cette définition, que cette observation de Saint Jean-Paul II et l'enseignement qui vient de cette observation, que nous vivons à l'époque des combats entre la civilisation de la vie. La civilisation de la vie, ce n'est pas seulement la protection des enfants à naître. C'est bien sûr la question la plus dramatique, mais c'est aussi la protection des familles qui donne la vie. C'est aussi la protection de l'éducation, de la formation des enfants dans la famille, où les enfants trouvent la foi, la valeur morale, etc., etc. Mais l'opposition entre cette civilisation de la vie et ce que Saint Pape a nommé la civilisation ou la culture de la mort. Moi, personnellement, c'est ma interprétation, je préfère la notion de contre-culture de la mort. Parce que ça veut dire que c'est la négation des cultures, c'est la contre-culture. Donc, par exemple, la contestation de maternité, la contestation de paternité, la contestation de l'autorité paternelle dans la famille. Je pense qu'ils ont tort, ces gens qui ont trouvé dans cet engagement de Jean-Paul II pour ces valeurs naturelles, mais la valeur naturelle créée par Dieu, le naturalisme, parce que ce n'était pas aucun naturalisme, c'était la défense des fondements naturels de la civilisation chrétienne. Mais c'est dans le domaine très important pour notre engagement, parce que l'engagement de la politique, d'un homme politique chrétien est toujours lié avec la défense de la famille, avec la défense de la vie dans l'époque actuelle. Mais je pense que nous avons l'occasion d'examiner la possibilité d'utiliser l'herméneutique de la réforme, de la continuité entre l'enseignement de ce grand saint et pape. Mais Saint Jean-Paul II a mené sa opposition contre cette contre-culture de la mort avec la force, très clairement s'opposant contre l'absolutisation libérale, et malheureusement, on peut dire, excusez-moi le mot, chrétienne libérale, de la conscience individuelle et de la société dite pluraliste. Par exemple, dans Evangelium Vitae, dans l'article 71, Jean-Paul II parfaitement déclarait que, je cite exactement toute la phrase, parce que c'est très important, que la tolérance légale de l'avortement et de l'euthanasie ne peut en aucun cas s'appuyer sur le respect de la conscience d'autrui, précisément parce que la société a le droit et le devoir de se protéger contre les abus qui peuvent intervenir au nom de la conscience et sous le prétexte de la liberté. Permettez-moi répéter la substance de cette phrase. La société a le devoir de se protéger contre les abus qui peuvent intervenir au nom de la conscience. C'est très différent de l'absolutisation chrétien-libérale de la conscience individuelle. Par exemple, j'écoutais dernièrement dans notre Parlement, s'il s'agit de la vie, nous voterons chaque personne selon sa conscience. Je pense que dans le cas comme ça, il faut accomplir le devoir de conscience et non pas utiliser la conscience comme la faculté divine de juger le bien et le mal. Parce que nous avons des devoirs de conscience qu'il faut accomplir. Heureusement, c'est l'Évangile qui éclaire nos consciences et nous aide d'utiliser des règles de morale objective aux situations concrètes pour trouver nos devoirs individuels. Comment servir cet devoir objectif, le mien, dans notre engagement personnel individuel. Et c'est le rôle de conscience et non pas de proclamer de bien et de mal, parce que c'est le blasphème, tout simplement. Bon, mais je vais passer à la deuxième partie de ces remarques, de ces considérations, parce que l'engagement politique est toujours l'acte d'une personne concrète. C'est toujours la concrète personne humaine, une femme et un homme, qui s'engage. Et pour que cet engagement ait été fructé, l'engagement a besoin non seulement d'une doctrine, mais aussi de la grâce. Et c'est pour cela que je voudrais dire quelques mots également sur les valeurs qui véhiculent de la liturgie traditionnelle, fournissant un soutien pour l'engagement chrétien dans la politique. Je ne veux pas dire de ça parce que je ne suis pas ni liturgiste, je suis un simple fidèle qui va à la messe. À ma jeunesse, j'étais souvent scandalisé par ces paroles polonaises, les gens qui vont à la messe. Les gens qui vont à la messe. Parce que chez nous, en Pologne, beaucoup ont dit, les chrétiens disent, se déclarent, je vais à l'église. Nous disons, je vais à l'église. Et même plus souvent que ce ne se déclare pas, je suis catholique, mais je vais à l'église. Je vais à l'église. Tu vas à l'église? Oui, je vais à l'église. Mais je trouvais dans un très bel livre, dans une très belle biographie de notre Seigneur, de Roman Brandstetter, un grand écrivain polonais, qui était un juif converti, très belle décrit la vie de Sainte Famille, parce que il écrit dans cette Jésus de Nazareth que c'était des gens qui allaient au temple pour participer dans toutes les fêtes juives dans lesquelles devait participer un fidèle. Et il allait au temple. Donc moi, je ne suis pas liturgiste. Je suis seulement un homme qui va à l'église. Donc je ne vais pas présenter ni la phénoménologie ni des autres choses sur la liturgie traditionnelle, mais je vais partager avec vous, mesdames et messieurs, de mon expérience personnelle, d'un fidèle qui est engagé dans les affaires de ce monde et qui va à l'église, qui participe dans la messe, qui vit dans la liturgie traditionnelle. Donc, je pense que tout d'abord, la liturgie traditionnelle, je dis de ma propre expérience, forme et maintient l'esprit de service. L'esprit de service qui est très étrange à l'esprit de la politique moderne, à l'esprit de concurrence des intérêts, à l'esprit de chercher popularité, etc. L'esprit de service. Cet esprit de service est étroitement lié à la transcendance de Dieu que l'on sert, parce que Dieu est la source et le but de notre vie. Il est notre Sauveur mort pour nous. L'esprit de la liturgie traditionnelle est peut-être le plus frappant tout au début de la messe. Je pense que si nous concentrons sur la manifestation visible, le caractère de la messe traditionnelle se présente très fortement au commencement de la messe. La messe traditionnelle ne commence pas par l'accueil des fidèles par le prêtre. Il n'y a pas la structure de rencontre. Elle commence par l'humble prière au seuil du sanctuaire, au pied de l'autel, et par la demande adressée à Dieu de nous pardonner nos péchés. Cet esprit de service est visible tout au long de la messe dans de nombreux gestes de vénération comme les inclinaisons et d'amour comme le baiser de l'autel. La liturgie traditionnelle a aussi un caractère communautaire. En nous unissant évidemment à toute l'Église, et non pas de cette trois états de l'Église, l'Église qui triomphe au ciel, qui souffre dans le purgatoire, qui combat à cette terre. Mais s'il s'agit de cette unité, l'esprit communautaire avec toute l'Église combattant sur la terre, il nous unisse avec toutes les générations, des catholiques qui nous précédaient. Je ne dis pas ici de la rite de la messe, parce que l'Église catholique connaît beaucoup de rites traditionnels, comme la messe de ce messe nommé Saint-Pie-V, qui n'est pas exact, parce que Saint-Pie-V c'était seulement réformateur de la messe traditionnelle romain, qui est la messe primitive, beaucoup plus ancienne, mais la messe dite byzantine, dite Saint Jean Chrysostome. Non, je ne dis pas que nous participons dans la même messe que Charlemagne, par exemple. Je dis de la prière de la messe. Je dis de la prière de la messe. Elle nous unit avec toutes les générations de catholiques et nous prions, nous écoutons ce fait, tout spécialement pendant le canon. Quand nous revenons à tous les apôtres, nous revenons au premier pape, nous revenons au martyr, le plus vénéré par l'Église primitive, et avec le propre de la messe, avec la commémoration de saintes, nous vivons sans cesse de cette unité avec toute génération de catholiques. J'avais cette semaine, malheureusement, je passe cette semaine à Bruxelles, parce que hier, nous avons en Pologne la fête exceptionnelle dans notre missel traditionnel, dans notre province de l'Église. C'est la manifestation de l'unité de la vie de l'Église, de la vie spirituelle de l'Église, de nos combats temporels, parce que 10 octobre, c'est la commémoration de la victoire de Hoche. Notre roi Sigismond III a demandé qu'en la Pologne, parce que c'était la Vienne, 63 ans avant la bataille de Jean Trois-Sobieski, qui a libéré Vienne dans 1683, parce que dans l'année 1621, à l'époque de Sigismond III, nous avons bloqué l'invasion musulmane, l'invasion turque. Après cette bataille, notre roi a demandé au pape de la messe avec acte de grâce spécial, et c'est la spéciale commémoration en Pologne. Je ne connais pas beaucoup d'exemples dans toute la chrétienté, avec le remerciement à Dieu à victoire de Hoche. C'est tout spécial. Donc, nous, dans la ce nommerait directement, parce que nous avons aussi la fête, comme par exemple la fête de Sainte-Nom de Marie, qui était acte de grâce pour la victoire de Vienne. Mais la liturgie traditionnelle nous initie avec toutes les générations de catholiques qui se manifestent tout spécialement chaque jour dans le canon de la messe avec la commémoration, pas seulement avec pas seulement la commémoration, mais avec la prière en conscience de société, de communauté, avec des apôtres qui sont au ciel, avec des premiers papes, des premiers martyrs, etc. Et cette prière souligne cette dimension communautaire très clairement.